Vous écoutez France Culture. Le journal de Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous irons tout d'abord au Brésil. La jeune démocratie a basculé hier soir dans une grande inconnue avec son premier président d'extrême droite, plus de 30 ans après la fin de la dictature. Une élection qui a jeté une lumière crue sur les fractures qui divisent aujourd'hui la société brésilienne. Invité de ce journal, Dominique Vidal, professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. En Allemagne, nombreux sont ceux à se demander combien de temps encore la chancelière, dont le mandat court jusqu'en 2021, résistera-t-elle à la tête de la coalition au pouvoir au lendemain de la nouvelle hémorragie électorale enregistrée par la CDU aux élections régionales dans le Land de Hesse. Angela Merkel pourrait renoncer à sa réélection à la présidence de la formation conservatrice. Le président turc Recep Tayyip Erdogan inaugure en grande pompe aujourd'hui à Istanbul un nouvel aéroport destiné à devenir le plus grand du monde, une vitrine en quelque sorte des méga projets d'infrastructures qui ont transformé la République islamique depuis son arrivée au pouvoir. En France, le Premier ministre Édouard Philippe doit faire aujourd'hui une série d'annonces transversales sur la réforme de l'État. C'est également aujourd'hui que doit être lancé l'appel à candidature pour l'élection du nouveau délégué général LREM. Enfin, nous nous intéresserons à cette longue liste de quelques 500 médicaments et vaccins dont quasiment tous sont introuvables aujourd'hui dans les pharmacies. Enfin, à 12h55, on vous retrouvera Olivia pour la deuxième partie donc de la grande table des idées. Comme attendu, le Brésil a donc basculé dans l'extrême droite. Hier, le marasme économique, autant que la corruption endémique, mais aussi la crise de confiance aiguë dans la classe politique, ont produit leur ultime secousse avec celui que l'on surnomme désormais le Trump tropical, Jair Bolsonaro. Cet ultra-nationaliste, machiste, homophobe, chantre de la dictature, a recueilli pas moins de 55% des voix contre 45% pour son adversaire de gauche, Fernando Haddad. Ou dit autrement, peu importe ses déclarations outrancières et ses discours de haine, les électeurs du plus grand pays d'Amérique latine ont choisi à leur tour de se tourner vers une nouvelle figure de l'antisystème. Alors hier soir, liesse d'un côté et peur de l'autre dans les rues de Sao Paulo, pro et anti-Bolsonaro étaient dans la rue, deux camps, deux Brésil en somme, avec de profondes divisions, comme en témoigne le reportage de notre envoyée spéciale Sandrine Etoa-Andegue.
Les tambours et les feux d'artifice sont résonnés jusque tard hier soir dans le ciel de Sao Paulo. Dès l'annonce de la victoire de Jair Bolsonaro, des milliers de personnes ont envahi l'avenue Paulista. C'est la rue la plus fréquentée de la capitale économique du Brésil. Une marée verte, jaune et bleue, les couleurs du drapeau brésilien. Un drapeau qui recouvre les épaules de cette électrice euphorique.
Meu nome é Yara, sou enfermeira.
Mon nom c'est Yaya, je suis infirmière, je suis très heureuse de cette victoire. Ça fait 13 ans qu'il y a une tache rouge sur notre pays, celle de la corruption, mais on veut que ça change. Je suis venue très loin pour fêter ça ici.
Une ère nouvelle s'ouvre pour le Brésil, répète optimiste ces milliers de Brésiliens. Certains ont un verre de Skol à la main, la bière locale, et portent le t-shirt jaune de leur héros, l'homme providentiel, celui qui va sortir le pays de la crise avec ses 13 millions de chômeurs, celui qui va éradiquer la violence dans les rues. Pour beaucoup, c'est un jour historique. Quelques rues plus loin, des applaudissements accueillent Fernando Haddad. Il fait son entrée précédée par son équipe de campagne et ses soutiens. Chemise blanche, sourire de circonstance, le candidat du PT remercie les 45 millions de Brésiliens qui ont voté pour lui et il les appelle à résister.
Nous vivons un moment, depuis déjà longtemps, où les institutions sont mises à l'épreuve. N'ayez pas peur, nous serons là.
Ce qui frappe lors de son discours, c'est cette photo de famille qui symbolise la défaite de son parti. À gauche de l'estrade, ceux qui ont fondé le PT avec Lula, lui, est en prison. Au milieu, l'ancienne présidente de la première puissance d'Amérique latine, Dilma Rousseff, presque cachée. Elle a été destituée en 2016. Et puis le perdant, Fernando Haddad. La défaite est cruelle pour les militants qui oscillent entre colère et larmes.
Je m'appelle Daniel, je suis étudiant. Je me sens perdu, j'ai peur. C'est la victoire de la haine sur l'amour et le bonheur. Je suis effrayé par les discours que tiennent les partisans de Bolsonaro. Il n'y a aucune fraternité, aucune humanité.
Assiné, lui, a besoin de comprendre et tirer des leçons.
Ma tristesse est profonde parce que je n'imaginais pas que les choses finiraient ainsi. Pour moi, ce résultat, c'est la conjonction de plusieurs choses.
un racisme institutionnalisé et le poids de la religion évangélique qui a remplacé un État défaillant.
Un Dieu auquel il ne croit plus depuis longtemps.
Un reportage dans les rues de Sao Paulo, signé Sandrine et toi, Andeg. Et pour continuer de décrypter la victoire hier de Jair Bolsonaro, invité en studio avec nous, Dominique Vidal, professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Le résultat de ces élections est-il selon vous le signe d'une adhésion sincère des Brésiliens à l'idéologie d'extrême droite, voire d'un ralliement nostalgique à un passé pourtant sombre de leur histoire, ou bien le signe d'abord et surtout d'un rejet du Parti des Travailleurs?
Je pense que ce n'est en aucun cas un ralliement idéologique, mais bien davantage un rejet de la classe politique traditionnelle, ou plus exactement des partis qui ont, depuis le rétablissement des procédures démocratiques en 1985, exercé tour à tour les plus hautes responsabilités, le Parti des Travailleurs bien sûr, mais aussi le Parti de la social-démocratie brésilienne, qui a été longtemps son principal opposant et qui a été, lui, bien plus encore que le Parti des Travailleurs, laminé au cours de ces élections, que ce soit à l'élection présidentielle ou aux élections pour le Congrès ou au gouvernement d'État.
Un ras-le-bol, en somme, de la classe politique traditionnelle. La corruption a été aussi l'un des piliers, sans doute, la lutte, du moins, contre la corruption, de l'un des piliers de la victoire de Bolsonaro. Et pourtant, le Parti des Travailleurs n'est pas spécialement plus corrompu que la plupart des autres partis. On se souvient même qu'à la fin de la campagne présidentielle, il y a eu cette révélation du financement illégal par des entreprises favorables à Bolsonaro de l'envoi de centaines de millions de messages, de propagande, de fausses informations. Comment expliquer que Bolsonaro a réussi finalement à faire porter le chapeau de la corruption à la seule gauche?
Alors, pour paradoxal que cela puisse paraître, effectivement, le Parti des Travailleurs n'est pas le parti qui a le plus de personnalités impliquées dans les différents scandales de corruption qui ont secoué le pays au cours des 15 dernières années, ou notamment le scandale lié à l'entreprise pétrolifère Petrobras, le parti qui a le plus de personnes impliquées, l'ancien parti de Jair Bolsonaro. Mais Jair Bolsonaro, lui, n'a pas été impliqué dans ces affaires et a réussi justement à apparaître comme quelqu'un qui n'était pas impliqué, qui était capable de justement mettre un terme à la corruption qui est importante au Brésil, mais qui n'est pas le principal problème du Brésil. Les principaux problèmes dont se plaignent les Brésiliens, c'est l'insécurité, le chômage, la détérioration des services publics, mais ce thème de la corruption a été érigé comme thème principal de la campagne, avec l'idée que les sommes qui pourraient être récupérées de la lutte contre la corruption seraient à même de donner une vie bonne à l'ensemble des Brésiliens, ce qui ne peut pas être démontré, puisque même si ces sommes sont très importantes, elles restent de toute façon très loin de pouvoir répondre aux demandes sociales des différents secteurs de la société brésilienne.
Alors vous avez évoqué à l'instant un autre grand thème de cette campagne, l'insécurité, avec 175 homicides par jour l'an dernier, la violence a atteint un niveau record, et en la matière, les propositions de Bolsonaro sont pour le moins radicales, la libéralisation de l'accès aux armes, la réduction de la majorité pénale à 16 ans, reste que l'émergence de cette atmosphère délétère, les amalgames, les outrances, toute cette démocratie de la tension n'est-elle pas paradoxalement elle-même propice à la recrudescence des actes de violence?
Alors il est très peu probable en effet que les mesures proposées par Jair Bolsonaro, qui peuvent être d'abaisser l'âge de la majorité pénale, ou dans certains cas de permettre aux policiers ou d'autoriser les policiers à éliminer les délinquants, ce qu'ils font déjà largement, puisqu'il y a eu l'année dernière plus de 5000 personnes tuées par des forces de police dans un cadre légal, et aussi des policiers qui à leurs heures hors service travaillent pour des groupes d'extermination, il y a fort à craindre qu'effectivement cette carte blanche, puisque c'est ce terme lui-même que Jair Bolsonaro a utilisé, qui serait donné aux policiers, soit de nature à faire baisser l'insécurité.
Est-ce que stratégiquement, le Parti des Travailleurs, pour parler de lui, n'a-t-il pas commis une erreur en s'accrochant presque jusqu'à l'absurde à la candidature de Lula? La candidature de Haddad, dont le nom était finalement guère connu, est arrivée très tard. Est-elle arrivée trop tard?
Alors, sans doute, moi je pense effectivement que si la candidature d'Haddad avait été lancée plus tôt, et si surtout le Parti des Travailleurs s'était lancé dans une politique d'union de la gauche avec d'autres forces, le résultat aurait pu être différent, sans que cela soit certain non plus. En tout cas, ce qu'on observe au terme de cette campagne électorale, c'est que finalement, chaque formation politique de droite et de gauche a poursuivi sa propre stratégie, visant sans doute le coup d'après, au détriment très largement de la population brésilienne qui, d'une certaine façon, a été prise en otage par un personnel politique qui, à de rares exceptions près, est d'une médiocrité singulièrement connue.
Une dernière question, Dominique Vidal. Après la victoire de Bolsonaro, après celle de Trump, de Salvini, tout cela nous laisse à penser que le dégagisme serait aujourd'hui la seule motivation des électeurs, sauf que ce n'est pas ce que démontre à l'inverse le maintien au pouvoir des Poutine, Erdogan et autres Orban. En revanche, il y a bien un point commun. C'est ce besoin d'autorité. Est-ce que davantage que le dégagisme, c'est le besoin d'autoritarisme qui, curieusement, motiverait aujourd'hui les électeurs dans leur choix politique ?
Alors, je pense que dans beaucoup de sociétés du monde, il y a un besoin d'autorité, voire même d'autoritarisme. Mais ce qui unifie et fédère tous les mandataires que vous avez évoqué, quelle que soit leur différence, c'est leur illibéralisme, c'est-à-dire le fait que finalement l'attachement aux valeurs de la démocratie libérale, aux droits politiques, civils, sociaux, soit de plus en plus fragilisé dans les contextes dans lesquels nous vivons et qu'un certain nombre de forces politiques puissent construire leur succès sur le rejet de cette démocratie libérale et lui attribuer les principes faiblesse des sociétés dans lesquelles nous vivons.
Merci Dominique Vidal, professeur de sociologie, je le rappelle, à l'université Paris Diderot, d'avoir été en direct avec nous. Et de l'autre côté de l'Atlantique, cette fois-ci, si l'Italie est généralement présentée comme l'enfant malade de l'Europe, tant l'issue des dernières élections aura non seulement ébranlé la démocratie de la péninsule, mais aussi bouleversé le jeu politique traditionnel, que dire à présent de la très solide République fédérale d'Allemagne, qu'il semble loin les temps où Angela Merkel assurait la stabilité européenne. Deux semaines après un scrutin en Bavière, catastrophique pour son allié la CSU, les conservateurs de la CDU ont essuyé un cuisant échec hier en Hesse, la région très riche de la capitale financière du pays, Francfort. Alors le parti de la chancelière est certes arrivé en tête, mais son score de 27% représente un recul historique, même repli pour le SPD qui émarge à un peu moins de 20%. À l'inverse, les écologistes, eux, ont doublé leur score à près de 19%, tandis que l'extrême droite a réussi à entrer dans le dernier parlement régional où elle n'était pas encore représentée avec un bond à 13%. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Berlin. La chancelière allemande doit s'exprimer dans quelques minutes pour tenter de ressouder sa fragile coalition gouvernementale. Or voilà qu'une rumeur de plus en plus persistante court depuis ce matin. Angela Merkel ne serait pas candidate à sa réélection à la présidence du parti début décembre.
Oui, elle est sur le point de l'officialiser elle-même. En effet, lors de cette conférence de presse au siège de la CDU à Berlin, elle ne briguera pas un nouveau mandat de présidente lors du congrès du parti les 7 et 8 décembre à Hambourg, et elle quittera la politique à la fin de la législature en 2021. C'est une véritable page de l'histoire politique allemande qui se tourne. Celle qui dirige le parti chrétien-démocrate depuis plus de 18 ans aura donc fait mieux en termes de longévité que Konrad Adenauer, le fondateur, mais 7 ans de moins que le recordman Helmut Kohl. Elle prend ainsi acte des mauvais résultats des deux élections régionales et préfère offrir le parti plutôt que la chancellerie. En grande tacticienne, elle a pris soin il y a 8 mois de placer une proche comme numéro 2, Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée AKK, l'aile centriste de la CDU. Elle est donc sur le papier la plus légitime et elle vient de faire savoir d'ailleurs qu'elle était candidate. Tout comme Friedrich Merz, qui attend son heure depuis longtemps. Ce serait un retour pour lui en politique. Il présidait le groupe au Bundestag au début des années 2000. Il incarne plutôt l'aile droite du parti, Thomas, et c'est un des plus critiques de l'action d'Angela Merkel.
Et puis si Angela Merkel apparaît plus que jamais en sursis, le plus urgent pour la chancelière, Ludovic, consiste peut-être désormais à empêcher les sociaux-démocrates au bord de l'implosion de quitter la coalition.
Oui, parce que Merkel, qui quitte la présidence de la CDU et qui assure en même temps vouloir rester chancelière jusqu'au bout, on peut le voir comme une action préventive pour éviter que ce ne soit la grande coalition qui s'effondre. C'est un choix osé de sa part, car elle a toujours lié la présidence du parti à la fonction de chancelière. Et en ouvrant cette bataille de succession, elle déporte certes les regards, mais ne renforce pas son gouvernement. Et puis, elle pourrait donner des idées à ses partenaires sociaux-démocrates bien mal en point, même pire encore que la CDU après ses élections. question. Andrea Nahles, la présidente du SPD, va s'exprimer sur les coups de 14 heures. Va-t-elle décider avec son parti de quitter cette grande coalition? Va-t-elle appeler à de nouvelles élections? Ou va-t-elle, et c'est plus probable, exiger davantage de cette coalition, un calendrier, des échéances précises pour obtenir des résultats et tenter de relancer ce gouvernement?
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Il y aura bien un second tour en Géorgie pour désigner le nouveau ou la nouvelle présidente. Hier, aucun candidat n'a réussi à remporter la majorité. En revanche, comme attendu, c'est la favorite du scrutin, l'ex-ambassadrice de France, Salomé Zourabichvili, qui est arrivée en tête avec 38,7% des voix contre 37,7%. Pour l'ancien ministre des Affaires étrangères et leader de l'opposition, le second tour aura lieu au plus tard le 2 décembre. Le Royaume-Uni doit dévoiler aujourd'hui un budget aux allures de véritables casse-têtes financiers en pleine négociation incertaine sur le Brexit. Un test à haut risque également pour la contestée première ministre Theresa May. Pourquoi ? Parce que le vote du budget au Parlement jeudi constituera un nouveau prétexte pour des députés remuants de s'opposer à la chef de l'exécutif conservateur. Si le nouveau palais du président turc attestait déjà parfaitement de son surnom de sultan des temps modernes, le nouvel aéroport d'Istanbul, appelé à devenir rien de moins que le plus grand du monde, vient une fois de plus confirmer la folie des grandeurs dont semble décidément atteint Recep Tayyip Erdogan. Ce projet pharaonique doit être inauguré aujourd'hui, jour du 95e anniversaire de la République turque. Un projet qui, depuis le début des travaux menés à marche forcée, ne manque pourtant pas de détracteurs qui dénoncent non seulement une infrastructure démesurée, mais aussi une catastrophe écologique. C'est une correspondance à Istanbul signée Anne Handlauer.
C'est l'un de ces projets fous, ainsi que le président turc Recep Tayyip Erdogan désigne les infrastructures géantes qu'il lègue à Istanbul. Un aéroport de 6 pistes bâti sur 76 millions de mètres carrés pour 200 millions de voyageurs chaque année. Pour le joindre par la route depuis le centre-ville, il faut remonter vers le nord pendant une trentaine de kilomètres et arriver dans ce qui était autrefois une forêt. Une zone protégée, explique l'urbaniste Orhan Demir.
Depuis 1980 et le premier plan d'aménagement d'Istanbul, qu'on appelle la Constitution d'Istanbul, tous les plans excluaient catégoriquement d'étendre la ville vers le nord pour protéger ses espaces verts, considérés comme le poumon de la mégapole. On a violé cette constitution.
Pour l'instant, seules 5 destinations sont desservies par Turkish Airlines, la compagnie nationale turque, au départ de l'aéroport. Ce n'est que le 31 décembre, sauf retard, que l'aéroport atteindra sa capacité intermédiaire de 90 millions de passagers par an. Avant même que le premier avion décolle, le poumon vert a déjà souffert, accuse la militante écologiste Ayşe Yıkıcı.
C'était une faune extraordinaire, des sangliers aux loups, des écureuils aux insectes, une flore tout aussi riche avec des plantes uniques au monde, un véritable écosystème. Les conséquences sont déjà visibles. Dans le nord d'Istanbul, les habitants constatent un nombre de plus en plus élevé d'oiseaux morts. Les gens les retrouvent en pleine ville, sur leurs balcons.
L'aéroport géant est loin d'avoir épuisé les polémiques, notamment celles qui pourraient éclater dès ce 29 octobre, lorsque son nom sera dévoilé. Plus de 300 000 internautes ont signé une pétition réclamant qu'il porte le nom d'Atatürk, fondateur de la République de Turquie. Recep Tayyip Erdogan pourrait en avoir décidé autrement.
Un attentat suicide perpétré à Kaboul aujourd'hui a fait un mort et 6 blessés. L'explosion s'est produite à proximité du siège de la commission électorale indépendante. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée. Elle survient en revanche au moment où les urnes des élections législatives du 20 octobre dernier sont acheminées dans la capitale au siège de la commission électorale, laquelle doit publier dans les semaines qui viennent les chiffres définitifs. Un avion de la compagnie indonésienne Lion Air, parti de Jakarta et qui transportait 189 personnes à bord, s'est abîmé en mer aujourd'hui avant de couler. Au moins 23 responsables gouvernementaux étaient à bord de l'appareil. Selon les autorités, les chances de retrouver des survivants seraient quasi nulles. Qui pour briguer la tête du parti présidentiel? C'est aujourd'hui que doit être lancé en France l'appel à candidature pour l'élection du nouveau délégué général LREM. Les intéressés ont jusqu'au 14 novembre pour déposer leur dossier. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors depuis que la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa, annonçait qu'elle ne postulerait pas à la direction de la REM, il semble que le parti manque de figure tutélaire pour succéder à Christophe Castaner, devenu ministre de l'Intérieur, ou quand le parti présidentiel se retrouve au fond confronté exactement aux mêmes problématiques que celles qui avaient justement déjà émaillé le dernier remaniement ministériel.
Oui, on se trouve un peu dans le même cas de figure que pour le remplacement de Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur. Encore une fois, personne ne s'impose véritablement, pas de candidat évident dont le profil correspondrait pleinement à la fonction. Du côté de l'Élysée, on voyait plutôt d'un bon œil la candidature de Marlène Schiappa. Elle cochait beaucoup de cases. parce qu'elle a de la poigne, parce qu'elle attire les caméras, parce que c'est une femme également, et qu'il y en a très peu qui occupent des postes à responsabilité à En Marche ou dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Mais elle a finalement renoncé, et ça pour deux raisons. Premièrement, car elle ne voulait pas abandonner sa place au gouvernement de secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Et deuxièmement, parce que le poste de délégué général d'En Marche n'est pas rémunéré, c'est bénévole, c'est écrit noir sur blanc dans les statuts. Il faudra sans doute effectivement par la suite faire évoluer cette situation, indique-t-on du côté de l'Élysée. Mais en attendant, il faut faire avec. Et du coup, c'est un peu un mouton à cinq pattes qu'on recherche pour prendre la tête du parti présidentiel. Il faut quelqu'un qui connaisse parfaitement le mouvement, nous dit-on, autrement dit il faut un marcheur de la première heure, qui soit aussi un manager, capable donc de s'imposer auprès des militants, mais aussi qui sache dire non au président, ou en tout cas quelqu'un qui lui parle franchement, qui ne soit pas un courtisan. Autre qualité recherchée par l'Élysée, il faut quelqu'un qui incarne le mouvement et donc qui soit capable de faire des plateaux télé ou des matinales radio. Le futur délégué général devra aussi, bien entendu, consacrer tout son temps à En Marche, et tout ça sans être payé pour le faire. Vous voyez que ça s'annonce quand même un peu compliqué, cette affaire-là. Pour le moment, trois députés sont sur la ligne de départ et s'apprêtent à se porter candidat. Le député des Français de l'étranger, Joachim Sonforget, et deux députés de Paris, Stanislas Guérini et Pierre Person. Ils ont l'avantage d'être assez proches d'Emmanuel Macron, mais ils sont tous très jeunes et surtout complètement inconnu du grand public. On verra dans les 15 jours à venir si d'autres personnalités décident de se lancer dans l'aventure. Mais pour l'heure, le mouton à cinq pattes n'a pas encore été repéré.
Merci Stéphane Robert. La baisse des cotisations salariales en bas de la prochaine fiche de paye sera-t-elle de nature à inverser l'opinion générale? Selon un sondage publié hier dans les colonnes du JDD, 72% des Français interrogés estiment que leur pouvoir d'achat a plutôt diminué depuis le début du quinquennat. L'autre terrain à déminer pour l'exécutif, c'est la colère des élus locaux contre le pouvoir. Plusieurs consultations seront organisées en ce sens cette semaine, à commencer par cet après-midi. Le Premier ministre Édouard Philippe doit recevoir les élus alsaciens au menu la possible fusion des deux départements en une seule collectivité. Enfin, depuis ce matin, le Premier ministre, toujours lui, réunit son gouvernement pour détailler cette fois-ci la réforme de la fonction publique. Objectif, simplifier les administrations centrales, mais aussi les déconcentrer. Le gouvernement s'était engagé à supprimer 50 000 postes d'ici à 2022. Ce matin, Édouard Philippe a évoqué l'idée d'un plan de départ volontaire et annoncé la création d'une agence de reconversion pour les fonctionnaires. En 10 ans, la liste des médicaments en rupture de stock ou en tension d'approvisionnement a été multipliée par 10. Ils étaient 44 en 2008 et à présent ils seraient 530, un demi-millier de médicaments et vaccins quasiment introuvables aujourd'hui dans les pharmacies. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour Thomas.
Comment a-t-on pu en arriver à une telle situation de pénurie?
D'abord, ce n'est pas un problème français, mais un problème mondial. La fragilité des chaînes de production des médicaments est due en grande partie à la concentration qui s'est opérée dans le secteur. Les matières premières qui entrent dans la fabrication des gélules et autres vaccins en rupture, autrement dit les substances actives en général, sont produites 8 fois sur 10 hors du territoire européen. L'Inde, la Chine concentrent ainsi 61% des usines capables de synthétiser ces molécules. Quelques pays ont préservé une certaine autonomie de fabrication, comme les États-Unis, 599 sites de production de matières premières, la toute petite Suisse, 400 sites, et le Japon, 280 usines. Mais la France et l'Europe, plus largement, l'industrie pharmaceutique, en France donc et en Europe, a décroché. Avec des conséquences, vous l'avez dit, importantes, 44 médicaments en rupture de stock en 2008, 10 fois plus en 2014, 530 aujourd'hui, en moyenne en rupture pendant 4 mois. On ne s'en rend pas forcément compte au quotidien parce que l'essentiel de ces pénuries touche les pharmacies des hôpitaux. Dans un rapport d'information du Sénat, sorti en octobre, l'une des personnalités auditionnées rappelle que pour traiter des cancers, 35 molécules de base sont fabriquées aujourd'hui exclusivement dans 3 usines chinoises contrôlées par la Food and Drug Administration américaine qui stoppe la fabrication au moindre doute sur la qualité. C'est tant mieux, mais les chaînes s'arrêtent alors et tous les médicaments qui en dépendent ne sont plus fabriqués. Les pharmacies des hôpitaux doivent donc jongler avec des traitements de substitution. D'ailleurs, les ruptures de stock de médicaments mobilisent 16 postes de travail à plein temps au sein de l'APHP notamment, ce qui coûte évidemment très cher à la collectivité. Les sénateurs qui ont planché sur cette crise évoque une trentaine d'idées pour y remédier, notamment expérimenter une exonération fiscale pour les entreprises qui implanteraient des usines de production en France. Et ils réfléchissent à une proposition de loi.
Merci Tara Schlegel. On termine avec un mot rapide du temps pour aujourd'hui, perturbé sur l'ensemble du pays avec des précipitations souvent soutenues mais aussi des chutes de neige abondantes sur les reliefs. La journée sera plus lumineuse le long de la Manche et de la façade atlantique mais les éclaircies s'entrecouperont d'averses. Quant aux températures en baisse, elles seront comprises en général cet après-midi entre 5 et 10 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.